Bienvenue dans l'IA en clair, le podcast de Bnext, avec Isa et Rob, le duo de podcasteurs numériques.
Bonjour.
En ce début d'août 2025, un nouveau niveau d'obligation de l'AI Act entre en vigueur.
Exactement.
Alors on s'est dit qu'on allait reprendre ce fameux AI Act, le règlement européen sur l'IA, publié en juin 2024.
Oui, pour aider à y voir plus clair, simplement.
Voilà. L'idée, c'est de vous aider à comprendre ce que ça change concrètement pour votre entreprise. Alors, on y va ?
Allons-y.
Peut-être commencer par la base. C'est quoi une IA selon ce texte ?
Bonne question. Alors, le considérant 12 nous dit qu'un système d'IA, c'est un système automatisé, conçu pour opérer avec une certaine autonomie. Et surtout, il peut inférer, c'est-à-dire apprendre et déduire pour produire des résultats.
Des résultats comme des prédictions, du contenu, des décisions.
C'est ça. Et ces résultats influencent l'environnement. C'est vraiment cette capacité d'apprentissage et d'adaptation qui le différencie d'un logiciel classique. Ça peut être une IA autonome ou une IA intégrée dans un produit.
D'accord. Et alors, qui est concerné? Qui doit suivre ces règles? Le champ d'application a l'air vaste.
Il l'est. Ça vise les fournisseurs, bien sûr, ceux qui développent l'IA, mais aussi les déployeurs, ceux qui l'utilisent, et même les importateurs, les distributeurs.
Ah oui, toute la chaîne.
Voilà.
Et un point clé, même si on est basé hors UE, si les sorties, les résultats de l'IA sont utilisés dans l'UE, on est concerné. Donc une portée extraterritoriale.
Tout à fait. Mais attention, il y a des exclusions importantes. Le militaire, la défense, la sécurité nationale, c'est dehors. La R&D pure, avant la mise sur le marché, aussi. Et l'usage personnel, non professionnel, n'est pas couvert non plus.
Ok, c'est plus clair. Le règlement adopte une approche basée sur les risques, c'est ça ?
Exactement. Plusieurs niveaux. Tout en haut, on a les pratiques interdites. Article 5.
Les lignes rouges à ne pas se franchir.
C'est l'idée. En gros, interdiction des IA qui manipulent le comportement de façon dangereuse, qui exploitent des vulnérabilités liées à l'âge, au handicap, interdiction aussi de la notation sociale par les autorités publiques.
Comme en Chine, par exemple.
Le texte vise à éviter ce genre de dérive. Sont aussi interdites certaines formes d'identification biométrique à distance, en temps réel, dans l'espace public, sauf exception très, très stricte pour les forces de l'ordre et la reconnaissance d'émotions au travail ou dans l'éducation.
D'accord. Donc ça, c'est le niveau interdit. Et juste en dessous, il y a les fameux systèmes à haut risque.
Précisément. L'article 6 explique comment les identifier. Il y a deux grandes catégories. D'abord, les IA qui sont des composants de sécurité de produits déjà réglementés. Pensez aux machines, jouets, dispositifs médicaux listés à l'annexe 1.
Ok, ceux qui sont déjà soumis à des contrôles. Voilà. Et la deuxième catégorie, ce sont les systèmes listés dans des domaines jugés critiques à l'annexe 3. Et là, la liste est longue. Biométrie, infrastructure critique, éducation, emploi, accès aux services essentiels comme le crédit ou les aides sociales, la police, la justice, la gestion des migrations. Ça couvre énormément de secteurs sensibles, effectivement. Est-ce qu'il y a une porte de sortie si on est listé dans cette annexe 3 ?
Oui, il y a une exception possible prévue à l'article 6.3. Si le fournisseur démontre que son système ne pose pas de risque important pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux.
Un risque pas important. C'est un peu flou, non ?
Ça l'est un peu. Le texte donne des exemples. Une tâche très procédurale. Une aide à une activité humaine déjà cadrée. La détection de motifs. Mais attention, le profilage de personnes, ça reste toujours à haut risque. Et surtout, le fournisseur doit très bien documenter pourquoi il pense ne pas être à haut risque. C'est une auto-évaluation sous sa responsabilité.
D'accord. Et pour ceux qui sont confirmés au risque, alors là, les exigences doivent être costauds.
Ah oui, les articles 8 et 15 détaillent tout ça. Il faut mettre en place un système de gestion des risques solide, continu. Avoir une gouvernance des données très stricte. Qualité, pertinence, gestion des biais. La qualité des données d'entraînement, c'est crucial.
Absolument. Il faut aussi une documentation technique très détaillée. Conserver les logs d'utilisation, être transparent avec les utilisateurs finaux, prévoir une supervision humaine efficace. Une supervision humaine, ça veut dire un bouton stop.
Entre autres. Ça veut dire que l'humain doit pouvoir comprendre, intervenir et, si besoin, arrêter le système. Et bien sûr, des garanties d'exactitude, de robustesse et de cybersécurité. C'est vraiment un ensemble d'obligations très lourds.
On imagine. Et ces obligations, elles sont différentes pour celui qui crée l'IA et celui qui l'utilise.
Oui, tout à fait. Le fournisseur, lui, doit garantir la conformité de A à Z. Système qualité, marquage CE, enregistrement dans une base de données européenne, surveillance après la mise sur le marché. Le déployeur, celui qui utilise l'IA, doit l'utiliser correctement, selon les instructions, s'assurer que son personnel est compétent, maintenir la supervision humaine, et pour certains, notamment dans le secteur public ou les services essentiels, il devra même faire une analyse d'impact sur les droits fondamentaux avant de déployer.
Une analyse d'impact. D'accord. Et un mot rapide sur les IA à usage général, les fameux GPI, comme les grands modèles de langage type GPT.
Oui, ces modèles très capables, très polyvalents, ont un régime spécifique. Leur fournisseur doit fournir une documentation technique, informer ceux qui vont intégrer leur modèle dans d'autres systèmes, avoir une politique sur le respect du droit d'auteur, c'est important, et publier un résumé du contenu utilisé pour l'entraînement.
Même les modèles open source sont non traqués. Pour l'open source, il y a des allègements sur la documentation, sauf s'ils sont considérés comme présentant un risque systémique. Ça, ce sont les modèles les plus puissants, qui dépassent un certain seuil de capacité de calcul. Eux ont des obligations encore plus lourdes. Évaluation des risques, tests contradictoires, cybersécurité renforcée. Le règlement insiste aussi pas mal sur la transparence pour d'autres types d'IA, non ?
Effectivement. L'article 50 est clair. Si on interagit avec un chatbot, on doit savoir que c'est une IA. Si on est soumis à une reconnaissance d'émotion ou une catégorisation biométrique, on doit être informé.
Logique.
Et surtout, il y a une obligation de marquer les contenus générés ou manipulés par IA. Les images, vidéos, sons, les deepfakes, et même les textes générés par IA sur des sujets d'intérêt public, sauf s'il y a eu une revue humaine significative. Le but est d'éviter la tromperie.
C'est essentiel pour la confiance. Et qui surveille tout ça? Qui sanctionne?
Alors, il y a un nouveau bureau européen de l'IA, créé au sein de la Commission européenne, et dans chaque pays, des autorités nationales de surveillance. Côté sanctions, elles se veulent très dissuasives.
C'est-à-dire ?
On parle d'amendes pouvant aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial annuel pour les pratiques interdites. Jusqu'à 15 millions ou 3% pour d'autres manquements.
C'est significatif.
Ah oui, clairement. Ça incite à prendre les choses au sérieux.
Mais ce n'est pas que de la contrainte. Le texte prévoit aussi des choses pour encourager l'innovation, notamment des bacs à sable réglementaires.
Des sandboxes ? Oui, des environnements contrôlés où les entreprises, surtout les PME et startups, peuvent tester leurs IA innovantes avec un accompagnement des autorités pour s'assurer qu'elles seront conformes avant la mise sur le marché. Il y a aussi des mesures spécifiques pour aider les PME, comme un accès prioritaire à ces sandboxes. Bonne nouvelle pour l'innovation alors. Le point crucial maintenant, le calendrier. Quand est-ce que tout ça s'applique? On est en août 2025, c'est là que c'est important de regarder les dates. Le règlement est entré en vigueur en juillet 2024. Les interdictions, elles, s'appliquent depuis février 2025.
Donc ça, c'est déjà en place.
Oui, et ce qui nous concerne aujourd'hui, en août 2025, c'est l'application des règles sur les modèles d'IA à usage général, les GPAI, et les règles de gouvernance, bureaux de l'IA, etc. Ça fait maintenant 2 ans après l'entrée en vigueur.
D'accord. Et pour le reste, notamment les obligations pour les IA à haut risque, pour la majorité des obligations concernant les IA à haut risque, celles de l'annexe 3, par exemple, ce sera en août 2026. Et pour les IA à haut risque qui sont intégrées dans des produits déjà réglementés, annexe I, c'est encore plus tard, août 2027. C'est une application très progressive. Ok, donc pour résumer, on a un cadre basé sur le risque, avec des interdictions claires pour le plus dangereux, des obligations très fortes pour le haut risque et des règles de transparence pour d'autres systèmes. L'impact dépend vraiment du type d'IA et de comment on l'utilise. C'est un changement majeur.
Tout à fait. Et si je peux ajouter une dernière pensée, la loi essaye de trouver un équilibre délicat entre l'innovation et la protection des droits. Mais un vrai défi pratique pour les entreprises, ça va être l'interprétation de certaines notions.
Par exemple, comment démontrer de manière convaincante qu'un système listé à l'annexe 3 ne présente finalement pas de risque important pour bénéficier de l'exception de l'article 6.3 ? Quelles preuves les autorités vont-elles accepter ? Ça reste une grande question pour la mise en œuvre concrète. Une zone grise à surveiller de près. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Avec plaisir.